Vendredi, on a changé le monde avec Maxime de Rostolan, le fondateur des Fermes d'Avenir. Eh ben, ça a bien marqué Guillaume Meurice, je peux vous le dire. C'est parti.
Salut les amis.
Salut Guillaume.
Eh hey, alors, vous êtes content de me revoir?
Ouais.
Ah bah c'est pas flagrant là quand
si,
même.
Si, enfin là on bosse donc.
Non mais je vois, mais ça fait quand même deux semaines qu'on s'est pas vu.
Oui, bah on savait que tu reviendrais donc.
Ah bon, d'accord. Bon, alors très bien, d'accord.
T'as écouté l'émission, j'espère?
Oui, et d'ailleurs j'ai pas mal de trucs à dire sur vendredi dernier. Alors déjà, j'ai failli avaler mon rhum arrangé de travers en entendant ça.
Ami du populisme, bonjour.
Voilà, c'est quand même choquant.
Oui, il y avait un contexte.
Hein, oui, il y avait un contexte, d'accord. Et quand Thomas VDB, il humiliait les pauvres, c'est un contexte aussi?
Oui, enfin, il n'a pas fait ça, Thomas.
Si, il a fait ça, écoute.
Et je ne comprends pas d'ailleurs que quelqu'un puisse accumuler plus de 20 milliards, quoi. Enfin,
vous
même,
dites
même,
ça parce que vous n'avez pas un milliard sur votre compte.
C'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais je pense.
Non, non. Il n'a pas un milliard.
Oui, bon, il a fait ça.
Voilà, mais... et Alex, c'est le pompon.
Alors, tu rigoles. Oh non, moi j'ai été hyper attentif à ce que disait le monsieur cultivateur écolo.
Ah, bien sûr, on sent que t'es un passionné d'agriculture.
Moi j'avais regardé la ferme célébrité il y a quelques années. Et je trouvais que Pascal Olmeta c'était bien
émerdé.
C'était une belle émission, hein. Il y avait quand même Vincent McDoom.
Oui, c'est bon, Alex, n'en rajoute pas, s'il te plaît.
Oui, enfin, moi, j'ai pas fait comme Charline du populisme, ni comme VDB de ne m'intéresser qu'aux riches.
Ouais, alors... bah non, toi, tu détestes tous les Français, écoute.
Ah, dénonciation, c'est un truc de français, ça vous intégrez.
Je ne suis pas une balance.
Voilà, chapeau, c'est bien,
oui,
bravo.
Enfin, il faut voir ça, je
oui,
dirais.
Oui, dans un contexte.
C'est ça,
voilà, voilà, bon, alors ça vous fait pas mal de trucs à corriger d'ici 17h, d'accord?
Oui, d'accord.
Voilà, d'ici là, moi, je vais faire la sieste. Allez, salut.
Bah, dis donc, il a bien assimilé les codes de la Réunion.
Bah, ça valait la peine qu'il revienne, là. Bonjour la France Inter, vous écoutez la bande à Jupiter, celle qui fait sa fête à l'actualité et à la syntaxe à Marlène Schiappa. Le président tient sa promesse de campagne, il mettra en place un service national universel, un mois d'engagement obligatoire pour les garçons et les filles. Alors qu'en pensent les jeunes?
C'est pas tellement urgent d'aller se faire sauter la gueule.
Maintenant que nous avons pris conscience du gaspillage alimentaire, attaquons-nous au gaspillage vestimentaire. C'est ce qui arrive quand on croule sous des tonnes de fringues qu'on ne met souvent jamais.
Les gens avec tout leur pognon, là, ils jettent des trucs qui servent encore vachement bien. Pas plus tard qu'hier, j'ai trouvé ces super collants à peine filés.
Les spectacles Made in France partent à l'assaut de Broadway. Les attachés culturels de l'ambassade de France aux États-Unis tentent de promouvoir nos pièces de théâtre à New York.
Si Donald ne vient pas à nous, bah nous, on ira à lui.
Lui est candidat, il peut s'adapter. Drunk, virgule. He fucks his chihuahua and stay blocked inside. And it is very douloureux, very painful. Alex Vizorek.
Hello, Charlotte Vanhoenacker. Ça, quand on se moque de moi, vous parlez bien anglais. Hein. Alors, autour de la table, figurez-vous, a wonderful team. À 17h20, celle dont le prénom est un antonyme, puisque si on voulait vraiment qu'il lui corresponde, il lui fallut qu'elle s'appelle Instabilité. Et pourtant, c'est Constance. Bonjour.
Hey. Bonjour.
De quoi on va parler?
On va parler de moi.
Oui. Qu'est-ce que je vous disais? 17h30, j'avoue sincèrement qu'on était en train de se faire à l'idée qu'il ne reviendrait pas vivant de la Réunion. Ah oui. Mais il est là. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour, ça s'est joué à rien. Oui, effectivement. Eh bien écoutez, moi aujourd'hui pour fêter les 1 an de Macron à l'Elysée, je suis allé voir des macronistes qui continuent les rassemblements et le porte-à-porte. Pourquoi?
Pour essayer d'attirer de l'attraction.
Eh oui, c'est important d'attirer l'attraction, toujours, pensez-y.
Et à 17h40, hier à Paris, il faisait un bon 26 degrés. Mais comme elle avait lu sur la bouteille de vin blanc que c'était autour de 13 degrés, elle s'est dit, il faudrait que j'en prenne deux. C'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
On va parler de... Est-ce que le fait de choisir un livre pour une mauvaise raison peut se révéler une bonne chose?
Très bien.
Et je me tourne vers celui qu'on a installé au milieu de l'open space. Vous prenez des cours de théâtre dès 14 ans et c'est là que vous découvrez votre capacité à modifier votre voix pour jouer plusieurs personnages. Vous commencez par imiter les groupes que vous écoutez à l'époque, Radiohead et Nirvana. Vous remportez l'émission Graines de Star à 16 ans. Vous êtes repéré par Laurent Ruquier et vous montez votre premier spectacle « J'aurais voulu être un chanteur ». Et bim, vous vous retrouvez en première partie de Céline Dion, la vraie. Vous avez fêté vos 10 ans de scène l'an dernier. Vous êtes... Je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes...
Je suis Michael Gregorio.
Oui, c'est
oh,
vrai.
La classe.
Oui, c'est vrai.
La grosse classe.
Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
par Jupiter.
Bienvenue Michael Gregorio.
Bonjour.
Bonjour. Vous interprétez les voix de trois personnages à la fois dans un film d'animation qui s'appelle Léo et les extraterrestres, qui sort en salle mercredi. Film de Christophe Lorenstein, Wolfgang Lorenstein et Sean McCormack. Et Alex Vizorek, vous a vu et entendu.
Le regard d'enfant de l'équipe, c'est moi, hein, Michael, vous le savez. Et en fait, vous faites les trois extraterrestres.
Et
ça, c'est rigolo parce que, en fait, ce petit garçon, Léo, il a 12 ans et son papa, il a un métier qui est pas commun, il est ufologue.
Exactement.
C'est-à-dire qu'il attend que les extraterrestres arrivent et il essaye de les découvrir et tout le monde se moque un petit peu et de lui et de sa maison et de tout ce qu'il fait.
Il est un peu marginal. Ouais.
Il est un peu marginal. Et sauf qu'à un moment, les extraterrestres, bah, ils passent pas loin et se disent, tiens, est-ce qu'on irait pas faire un saut sur la Terre? Racontez-nous pourquoi ils veulent venir, parce que je trouve que c'est le truc le plus drôle.
En fait, ils sont sur un bateau de croisière, enfin un vaisseau de croisière, comme ça, ils passent pas loin de la Terre et ils captent la télévision. Et il tombe sur le téléachat. Et là, il voit une espèce de tapis de massage qui a plein de positions, qui est extrêmement vibrant. Il peut faire plein de trucs, ce tapis de massage. Et c'est un film pour enfants, évidemment. Et quand même, c'est important de le dire. Et donc, en fait, ils partent à la descente sur Terre pour récupérer ce tapis de massage parce qu'ils n'ont jamais rien vu de tel.
Parce que
voilà, c'est le pitch du film.
Elle dit qu'il n'en reste que 250 en stock et qu'il faut aller vite.
Il faut aller vite, il faut se dépêcher. Et donc, ils débarquent sur Terre et captent le signal du père de Léo, ouais. Et ils arrivent pas très loin de chez Léo et ils sont complètement bloqués sur ce tapis de massage.
Mais il faut dire qu'ils sont très rigolos. Ils font peur à personne, parce qu'on pourrait se dire, tiens, les extraterrestres, ça fait peur. Non, ils sont plutôt maladroits.
Ceux-là, ils sont plutôt sympas.
Ils sont sympas, maladroits, ils s'entendent bien, mais pour finir, dès qu'il y a une connerie à faire, il y en a un qui sacrifie et paf, les deux autres lui en veulent.
Ouais.
Comment on travaille justement le fait de faire trois personnages? Je suppose que c'est la question qui vous revient tout le temps. Mais...
Disons que là, c'était un peu une première. J'avais fait du doublage, ouais. Mais j'avais jamais travaillé vocalement la voix des personnages. Bon, là, je suis quand même parti effectivement des personnalités des trois petits extraterrestres. Pour essayer de construire trois entités vocales différentes. Donc ce qui était un petit peu compliqué, c'était de faire se répondre les voix.
Et vous avez enregistré d'abord le texte de l'un, puis tout le texte de l'autre, puis
alors,
le texte troisième.
Alors j'ai commencé par faire les trois en même temps, ouais. Et à la fin de la première journée, le lendemain, on a voulu faire pareil, et j'ai fait non, en fait, ça va pas être possible. Ouais. J'ai la voix en vrac. On va faire personnage par personnage, et on va terminer le film. On va terminer chaque personnage, et ensuite on reviendra là où on s'est arrêté, prenant l'autre, et puis pareil pour le dernier.
Comme voilà. Ce sont des personnages de fiction, la voix, il y a tout à inventer. Ça vient d'une discussion presque éditoriale. Quelle couleur elle doit avoir, celle que vous voulez mettre vous, en fonction du physique. Comment on définit tout ça?
Il y a eu plusieurs choses. J'ai pas mal discuté avec Virginie Méry qui m'a dirigé pour le film. Il y a aussi la version originale. C'est-à-dire que je suis pas très loin des comédiens des comédiens anglais ou américains qui ont doublé.
Et eux, ils étaient trois.
Ils étaient trois. Voilà.
L'économie qu'on a fait.
Et puis il y a aussi des choses dans l'animation qui sont évidentes. Par exemple, il y en a un, on le voit, il accroche un peu les lèvres, il y a une espèce de petits cheveux sur la langue. Donc, ce truc-là, je l'ai gardé. Il est en VO et on le voit à l'animation. Et après, il y a tout un tas de trucs qui physiquement résonnaient de telle manière. Voilà. Mais ce qui était évident, c'est que je voulais pas tomber dans la contrainte vocale. Parce que le problème, c'est qu'il y a une heure et demie de film à faire et ça peut pas être juste des imitations qu'on va tenir pendant quelques secondes.
C'est des interprétations,
ouais. Et fallait pouvoir les tenir sur tout le film. Donc c'était ça la gageure, entre guillemets.
Est-ce que vous avez eu triple cachet?
ouais, grave. Non.
Et le boulot, justement, est-ce qu'il est plus amusant de créer ex nihilo une voix ou d'aller copier celle de quelqu'un? Ce qui est votre travail habituel.
C'est différent parce que la référence n'est pas la même. Donc il y a un petit peu plus de liberté quand même.
Le travail de comédien.
C'est assez cousin parce qu'évidemment pour les imitations, ce n'est pas le plus important la voix. C'est l'interprétation au final. C'est ça qui va donner de la profondeur ou de la rondeur à l'imitation.
Michael Gregorio, donc dans ce film qui s'appelle Léo et les extraterrestres.
Je me suis bien amusé, moi.
Qui sort en salle mercredi, donc, recommandé par Alex Vizorek, voilà. Pour tous les enfants. C'est un film d'animation donc de Christophe Lorenstein, Wolfgang Lorenstein et Sean McCormack. Il y a d'autres voix, c'est ça, Claude Perron,
ah oui,
Jean-Stan Dupac et Timoney Vomdor.
Ouais. Et Thierry Desroses également, qui fait le principal. Voilà, c'était génial de pouvoir travailler justement, parce que souvent, on est un peu tout seul quand on fait des films d'animation. Et là, j'ai pu croiser les acteurs. Et franchement, c'est une super expérience.
Mickaël Gregorio avec nous jusqu'à 18h. On va faire la fête à l'actualité. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est à l'actualité. Hein, oui. From the cradle bars comes a beckoning voice that sends you spinning. You have no choice. And the Branches, Spellbound, c'est la musique à France Inter. Avec Mickaël Gregorio qui est en notre compagnie aujourd'hui dans ce studio.
Qu'est-ce que. Oh, Guillaume Meurice est de retour.
Oui, Constance, on est content de la voir. Et Juliette Arnaud, elle a lu un livre.
Mickaël Gregorio, un petit point sur l'actualité d'abord. C'est le point actu.
Les gens qui pensent que la France, c'est une espèce de syndic de copropriété.
Le journal de presque 17h17.
Ah, moi, je suis propriétaire de mon slip.
Et on commence par les titres.
Aujourd'hui, nous fêtons un anniversaire, la première année d'Emmanuel Macron à l'Élysée.
Et ça se voit qu'il a un an, on a du mal à le comprendre et il fait plein de bêtises.
La voiture de Radio France a été dégradée hier lors de la fête à Macron.
Ça vaut bien la peine de s'emmerder toute l'année à faire des blagues de gauche, ils ont cassé la voiture.
Et les brèves ne sont pas cassées.
Ah bah non, ils n'ont pas cassé les brèves quand même, il y a des limites.
Et on commence par célébrer notre président.
Et oui, dans un documentaire programmé ce soir sur France 3, Macron critique ceux qui pensent que le summum de la lutte, c'est les 50 euros d'APL.
Et il les met en opposition aux valeurs pour lesquelles le colonel Beltrame est mort lors des attentats de Trèbes.
Et il a bien raison le président. Il y a aussi ceux qui pensent que la priorité, c'est la moralisation de la vie publique. Mais il ferait bien de se rappeler que Johnny Hallyday, il est mort. Et c'était triste.
C'est triste. Voilà. Et il a ajouté, le président, les défenseurs des APL ne savent pas ce que c'est que l'histoire de la France.
Oui, alors en matière de l'histoire de la France, il faudrait quand même qu'ils se méfient parce que les Français connaissent tous les passages sur la Révolution et Louis XVI.
Voilà, Édouard Philippe, le Premier ministre, a reçu ce matin les cheminots, mais sans intention de toucher à sa réforme.
Oui, c'est comme si en fin de soirée, une fille t'invite à monter chez elle, mais qu'elle te précise, tu pourras dormir dans le salon, j'ai un tapis très confortable.
Venons-en à un des rares débordements de la fête à Macron.
C'est tombé sur nous, hein, c'est la voiture, est-ce que c'est la voiture de Radio France, tout saccagé. Écoutez, moi j'ai recueilli la tristesse du journaliste qui se tenait face à la voiture.
Bon, maintenant, on va marcher. marchait beaucoup moins bien,
bah forcément.
À droite, Virginie Calmels, la numéro 2 de Les Républicains, a dit clairement non à un rapprochement avec Nicolas Dupont-Aignan.
Mais oui, pourquoi traiter avec un intermédiaire du Front National quand on peut directement aller chez le grossiste ?
Robert Ménard, lui, a été violemment pris à partie ce week-end par des manifestants en Gironde qui l'ont bousculé et même jeté au sol.
Sans doute une manière de lui rappeler cette existence du droit du sol.
Archéologie à présent. Les scientifiques ont annoncé qu'il n'y a finalement pas de chambre cachée dans la tombe de Toutankhamon.
Les recherches se poursuivent donc pour retrouver Xavier Dupont de Ligonnès.
Science toujours, une poule iséroise bat un record en pondant un œuf de 216 grammes.
Alors un œuf normal c'est 70 grammes, donc c'est trois fois plus petit.
Voilà. C'est comme si une femme accouchait d'un bébé de 12 kilos. Ouais,
faudrait donc demander à la maman de Gérard Larcher de nous expliquer tout ça.
Concours Lépine. Des étudiants inventent une appli pour écrire en clignant des yeux.
Oui, et si ça marche, une formidable carrière de dactylo s'ouvre à Vincent Lindon.
Cinéma toujours. Sylvester Stallone va revenir pour Rambo 5.
Oui, un mec musclé avec le visage à moitié paralysé et qui reprend encore et encore le même rôle. Sylvester Stallone, c'est le Vladimir Poutine du cinéma.
Les brèves.
Oui, d'abord une triste nouvelle. Un cinéaste sud-africain a été tué par une girafe. Il est mort sur le coup.
La girafe. Mais non.
Le coup de la girafe, évidemment.
Elle a un grand coup.
La girafe, elle est connue pour ça.
Voilà. C'est brillant. C'est brillant. Alors, on va faire quand même une dernière.
La brève du week-end m'était beaucoup envoyée par les auditeurs. Ils sont toujours friands de m'envoyer des bêtises belges à Quiévrain. En Belgique, un automobiliste a été flashé à 696 km/h au volant d'une Opel Astra. C'est la première fois dans l'histoire des brèves que c'est le radar qui est ivre virgule. Et l'article disait l'automobiliste a pensé qu'il y avait un problème.
Et je crois que la vitesse a été ramenée. J'ai vu la brève, je suis tombé sur l'article, c'est assez drôle.
C'était cette sorte.
Bah, Michael Grégorio, vous lisez les brèves aussi.
Ça m'arrive.
Je suis entouré aujourd'hui. 17h24 sur France Inter. Et oui, c'est Michael Grégorio qui est avec nous. Il a pris juste trois voix dans sa besace aujourd'hui, puisqu'il fait les voix des extraterrestres dans Léo et les extraterrestres, film d'animation qui sort mercredi dans les salles. Et on va aborder avec vous ce premier sujet. Ce sont les jeunes à partir de 16 ans qui peuvent bien se préparer au service national universel. Le président entend le mettre en place. On en connaîtra les contours dans le courant de ce mois de mai. Pensez printemps, les amis. Ce service national pour les garçons et les filles sera différent du service militaire, davantage axé sur l'entraide, les premiers secours ou les réflexes en situation de crise. Allez, servez jeunesse.
Qui c'est qui connaît les grades ici ?
Moi, la capitaine, ce fort capitaine.
Moi, je connais un gars qui est adjudant. Vachement intelligent, mon vieux. Il a son certif.
Ben, en tout cas, le plus fort, c'est première classe. Soldat de première classe.
Alors, il y a des soldats de deuxième classe ?
Oh, comment ça, nous enquiquinons avec vos histoires à la noix, là ?
Combien qu'on a des chefs ?
Oh, tu veux que je te dise, moi, dans la ville, chef, c'est celui qui a le plus grand zizi, puis c'est tout.
C'est bien sûr La Guerre des Boutons, le film à Yves Robert, en 1962. Michael Grégorio, à partir de 16 ans, donc, on aura les contours au mois de mai, hein, mais c'est les pistes qui se profilent, cela durerait un mois, une partie se passerait en internat, si bien sûr on peut accueillir tout le monde et contrôler les financements, bien sûr. Qu'en pense le fils de militaire ?
Eh ben oui, c'est vrai. Bah, moi je suis très heureux d'être passé sans avoir à le faire, j'ai juste fait une petite journée.
Et je crois qu'on peut dire merci Jacques Chirac.
Merci Jacques Chirac.
C'est la seule fois dans la vie on peut dire ça.
Exactement.
Même en ayant vu le paternel exercer.
Ah oui, mais mon père n'était pas un...
C'était pas un premier choix ?
Non, mon père est arrivé enfant d'Espagne en France et l'armée, ça a été un petit peu comme l'ascenseur social. Mm-hmm. Donc il a dû arrêter ses études après le certif. Et puis donc l'armée, ça a été l'occasion après, voilà. Donc c'était pas une véritable vocation et c'est pas quelque chose qui m'a vraiment transmis. Et je suis, je suis content d'avoir fait juste une petite journée chez les gendarmes. Voilà, mais c'était une journée sympathique avec des questions tout assez simples. Il fallait lire un programme télé. Je sais pas si c'est... personne l'a fait.
La
journée, exactement, la journée d'appel pour la défense.
Ouais, c'est ça.
Non,
ouais.
tu l'as faite, Constance?
Oui,
ou pas?
Si, j'avais fait.
Voilà. Ouais. Même notre réalisatrice Anne-Sophie Ladonne, elle l'a fait aussi.
Ouais.
Ouais. Et Pauline Laverdure,
la journée, une journée, bon, pourquoi pas.
Mais si à la guerre, on est prêt, quoi. On sait lire Télé Loisirs.
C'était Télé 7 jours.
L'idée aujourd'hui, donc en 2018, de contraindre la jeunesse pendant un
mois. C'est pas sur la base du volontariat. Ce serait quelque chose d'obligatoire.
Ce serait obligatoire. Oui, oui. Mmh. Service national universel. Oui, oui.
À 16 ans. Qu'est-ce qu'ils feraient alors ces jeunes? Qu'est-ce qui est prévu là-dedans?
Est-ce que les hommes et les femmes seront mélangés?
Ah, bah, question dans l'internat, c'est pas sûr. Mais non, il est question plus de développer les réflexes en situation de crise, mmh. les gestes de premier secours, mmh. l'entraide.
Mais en situation de crise, c'est-à-dire à la fin du monde?
Non, mais c'est ça, moi je vous le fais. Voilà. A priori, il n'y aurait pas de maniement des armes, ni de marche au pas ou d'apprentissage de techniques de combat. Il y aurait juste éventuellement du sport.
Mais est-ce que c'est une idée de colo un peu avec une mixité sociale? Parce que si c'est ça, moi je dis pourquoi pas.
Il y a certainement l'idée de mixité sociale derrière. Ouais. Et l'idée, tiens, d'apprendre aussi à jouer avec les règles. Parce que quand on est contraint pendant un mois, qu'on est à l'internat, etc., c'était pas du tout prévu, qu'on aurait préféré peut-être, je sais pas moi, faire ça un mois de culture, d'approfondissage. Ouais. Marlène Schiappa de suite, pas s'il te plaît, d'approfondissement. Est-ce que l'idée de, comme on est contraint, de pouvoir jouer avec les règles et peut-être essayer de transgresser sans se faire voir, etc., c'est quelque chose qui vous aurait plu?
Sympa. Mais, non, mais en fait, quand je discute avec des gens qui l'ont fait, ils gardent pour la plupart plutôt de bons souvenirs. Et ceux qui ne l'ont pas fait, qui se sont fait réformer de manière assez rock'n'roll aussi, qui ont simulé tout un tas de trucs en prenant des substances. Voilà, salut à mon équipe technique. voilà, non, mais c'est plutôt de bons souvenirs. Après, j'imagine qu'il y a eu aussi des gens qui doivent avoir de très mauvais souvenirs de cette période-là. Donc, mais à vrai dire, en plus, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais pourquoi pas, justement, se faire rencontrer des gens qui, dans la vie, ne se rencontrent pas parce que c'est pas les mêmes, malheureusement, c'est pas les mêmes milieux sociaux. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Après, est-ce qu'on est obligé d'en arriver là pour se mélanger. Voilà, c'est peut-être un peu dommage, mais pourquoi pas.
Il parlait de réforme, mon oncle, paix à son âme, était donc arrivé chez les colonels en traînant au bout d'une ficelle sa brosse à dents, expliquant qu'il promenait son chien. Et ça avait fonctionné. Bon, il a dû y aller souvent promener le chien.
Parce qu'après, ils vérifient quand même. Ils sont pas... Faut aller loin dans le délire.
Il faut voir comment aller le chien. Enfin,
j'espère que ça fait une brève dans la presse régionale, parce que c'est dommage quand même.
Tempore non suspecto.
Michael Gregorio est avec nous. Il est 17h29 sur France Inter. Et c'est l'heure de la Chronica Constance qui va réveiller la France.
Aujourd'hui, c'est lundi. Je me rends comme tous les jours au bureau. Avant d'attaquer le travail, je prends un petit café avec mes collègues comme d'habitude. Ils me demandent comment je vais. Je voudrais bien leur répondre, mais à chaque fois que j'ouvre la bouche, je rote. Comme tout le monde trouve ça dégoûtant, je tente de partir en courant, mais je me prends les pieds dans le fil de mon tampax et je tombe. Je suis bloquée à quatre pattes et mon corps est en plastique blanc. Je suis devenue une photocopieuse et François de la comptabilité m'a introduit de l'encre dans le cul. Je suis inquiète, pourvu que je ne fasse pas de bourrage papier. L'après-midi, je suis dans un couloir extrêmement étroit et j'essaye de courir pour échapper à un clown qui veut me violer avec sa bite multicolore et son sperme à paillettes, mais le sol est mou et mes pieds sont en poudre. Des cheveux gras se mettent à me pousser dans les yeux. Je décide de les laver parce que je ne supporte plus d'avoir les yeux attachés. La mousse me pique les yeux, ce qui prouve que le slogan « Ne pique pas les yeux » était un beau mensonge. Contrarié, je rentre à la maison comme d'habitude en bateau, mais comme mon moteur est cassé, je pète dans l'eau pour avancer. Ça fait des bulles, c'est rigolo, mais je dois avouer que ce n'est pas le moyen de locomotion le plus rapide. Enfin, arrivé à la maison, je décide de cuisiner ma mère avec un filet de citron pour la manger. Comme elle n'est plus très fraîche, je trouve qu'elle a un goût, mais ne voulant pas la vexer, je la mange entièrement. Tourne la page.
Ça, c'est juste Arnaud, hein, je dénonce.
Après le dîner, pour me détendre, je décide de me suicider en avalant la litière de mon chat avec beaucoup d'eau. Une fois décédée, je me rends compte que mon cerveau est resté vivant, mais que mon corps est mort, ce qui n'est pas pratique pour expliquer aux employés des pompes funèbres que la tenue dans laquelle ils veulent m'enterrer ne me plaît pas parce qu'elle me boudine. Je me rends compte que je suis affreusement en retard à ma réunion parents-professeurs, mais que le fait de ne pas avoir d'enfants et de ne pas être professeur me donne une bonne excuse pour ne pas y assister. Voilà. Si ce texte vous paraît absurde, dites-vous bien qu'aujourd'hui, moi ce qui me paraît absurde, c'est que c'est la journée mondiale des orphelins du sida. que chaque année 3,6 millions d'enfants deviennent orphelins à cause de cette maladie. 95% de ces enfants vivent en Afrique. Et comme nous vivons dans un monde où soigner les gens, ce n'est intéressant que si c'est rentable, eh bien on les laisse crever. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas grave parce que heureusement que c'est loin de chez nous et que c'est que des noirs, parce que si c'était des êtres humains, ça serait affreux. Bisous. Merci, Constance.
Vous voyez pas toujours où vous vouliez en arriver.
Non, elle est très bien
tombée sur.
On voit très bien où on est.
On vient de recevoir un tweet de Marlène Schiappa. Constance, il y a vraiment que vous qui puissiez répondre. Est-ce qu'on dit la bite à Dudule ou la bite de Dudule?
La bite à Dudule, absolument.
Ah voilà, c'est très bien.
Avec
vous
certitude.
Comme ça, tout le monde est bien. On sait quoi, c'est le service public quand même. C'est avec vos sous, voilà. Merci Constance. Ouais, c'est Mickaël Grégorio qui est avec nous jusqu'à 18h. De quoi on va parler? Oh, il y aura Juju qui va nous présenter un livre. Comme ça, je rattrape les auditeurs culturels. Je passe comme ça.
Non, c'était plus beaucoup.
Montée Cheval Mouen, c'est Mélissa Lavaux sur France Inter où il est 17h35 et notre invité c'est Mickaël Grégorio car il fait trois voix, les extraterrestres dans Léo et les extraterrestres qui sort mercredi dans les salles, film des frères Lowenstein avec Sean McCormack. Et figurez-vous que le mercredi soir, sur M6, il y a une soirée spéciale Mickaël Grégorio
avec entre deux spectacles documentaires Grégorio le prodige.
C'est moi qui ai cherché, qui ai trouvé le titre.
C'est vrai, j'imagine. À la Macron, vous supervisez la com.
Avec notamment aussi votre spectacle J'ai 10 ans.
Ouais, super spectacle.
Et voilà.
Donc, vu à Playel,
c'est la fête à Mickaël Grégorio mercredi, donc on l'aura bien noté. Et là,
c'est la teuf à Mika.
C'est le reportage à Guillaume.
Oui,
j'ai rentré home, sweet home.
Et bien, puisque vous chantez, allez tous ensemble, on y va.
Joyeux anniversaire.
Allez, on y va.
Joyeux anniversaire. anniversaire,
Mr. President.
Joyeux anniversaire,
Mr. Jupiter.
Et voilà. Yeah, ça fait un an de Macron à l'Elysée. C'est l'anniversaire à Manu, comme le dirait Marlène Becherel-Schiappa. Alors on va pas refaire la fête à Macron parce qu'il y a déjà eu une bagnole de Radio France pété, ça suffit comme ça. D'ailleurs il me semble avoir reconnu Patrick Cohen parmi les casseurs, il faudra vérifier sur les images. Alors bon anniversaire à mon Manu Macron, il y a un an, voilà, il a eu comme cadeau un beau palais et une panoplie de Louis XIV et une cour, une belle cour. Et moi je me suis rendu parmi eux, ils se réunissaient dans les Yvelines hier après-midi, ça s'invente pas, à Versailles, ils se réunissaient, j'y suis allé. Et j'ai pu faire un petit bilan avec eux, notamment sur la stratégie.
Si on cherche à n'être que de gauche, on va se couper d'une partie de la population. Si on n'est que de droite, on va se couper aussi d'une grande partie de la population. Si on est centriste, on va se couper de tout le monde. Donc, on est à la fois de gauche, de droite et de centre.
Mais ça veut dire que vous êtes en même temps d'extrême gauche et d'extrême droite aussi, du coup?
On peut être en même temps d'extrême gauche et d'extrême droite, voilà. D'extrême centre.
Voilà, tout, on prend tout. C'est le principe du macronisme, c'est la synthèse et c'est ça qui est beau. Ça va du skinhead aux zadistes, de Donald Trump et la NRA à Juliette Arnault et le NPA. C'est très, très vaste. Alors, l'extrême droite, où est-ce qu'on la retrouve, par exemple, chez La République En Marche?
Je suis pas spécialement toutes les lois, donc c'est rien.
Comment ils gèrent la crise des migrants? Il y a des images qui sont choquantes avec des CRS qui gazent des réfugiés. Est-ce que ça...
Pareil avec les fumigènes de la part des syndicalistes quand ils font une manifestation, c'est aussi choquant.
Oui, c'est vrai que la CGT avec leurs fumigènes, c'est aussi choquant qu'un CRS qui vide sa lacrymo sur un réfugié. Tout est une question de sensibilité, évidemment. Mais si tu fais partie de l'amicale des fumigènes maltraités par des moustachus en colère, eh ben, tu vis très mal les manifs de la CGT. D'ailleurs, passons à l'extrême gauche chez En Marche, hein, parce que j'ai quand même rencontré un militant avec un sac. Un sac comment? Un sac Che Guevara.
Systématiquement, quand les gens se font piéger, mais il n'y a pas une erreur, je dis pas du tout.
Et comment c'est pris ici alors le sac Che Guevara?
Tout le monde est surpris au départ. Il me demande, tu t'es pas trompé de... T'es sûr que t'es pas chez les Insoumis? J'ai des contacts avec eux parce que je les vois régulièrement, ils se plantent. Ils pensent que j'ai des tracts de chez eux, pas du tout. J'ai beaucoup d'humour.
Ah bah c'est une bonne blague Thierry, je trouve. Ah bah c'est drôle. Nous on s'y connaît en blague. Hein. Dans les manifs, on nous appelle les black blocs. C'est un métier.
Ouais,
bien sûr. Tracté pour En Marche avec un sac Che Guevara, bah c'est une bonne blague. C'est comme quand Macron il appelle son livre Révolution, c'est rigolo. Comme quand Castaner il parle, c'est souvent rigolo aussi. Il fait pas exprès, mais c'est quand même rigolo. S'il se met à faire des chroniques à la radio, on est mal. D'ailleurs, puisqu'on parle radio, Thierry, il vient d'où?
J'étais un des créateurs du mouvement des radios libres dans les années 80, alors que j'étais plutôt anarchiste à l'époque.
Donc vous étiez anarchiste pour finir chez Macron?
Je me suis recentré.
Ah bah là, oui, carrément, oui.
Au départ, j'étais plutôt... En 2002, j'étais déjà pour Bayrou.
Ah oui, ça a déjà commencé à merder à ce niveau-là.
On peut le dire.
Oui, bah disons-le, il est en train de nous faire une con-bendite, Thierry. La maladie bien connue qui s'attaque à tes convictions et qui te fait glisser irrémédiablement de Bakounine vers Nicolas Dupont-Aignan. Terrible fléau, on t'oublie pas, Thierry. Non mais c'est vrai, parce que moi je veux du bien aux gens. Hein. Même Macron, moi je veux du bien, je l'aime, c'est son anniversaire. Je veux même qu'il s'améliore. Alors j'ai demandé aux militants, qu'est-ce qu'il a raté par exemple?
Il ne peut pas être parfait. Enfin, un président n'est pas là pour être parfait en fait.
Il alors qu'est-ce qu'il a raté? D'où ma question.
Moi, je pourrais pas vous dire parce que déjà, j'ai pas été là pendant 6 mois, donc j'étais en Irlande et j'étais coupée.
Du coup, j'imagine que vous avez pas bien suivi ce qu'il a réussi non plus.
Non, mais il a réussi. Là, ça me perd là.
Ah bah ouais.
Évidemment qu'il a réussi des trucs.
Qu'est-ce qu'il a réussi?
Bah déjà la réforme du code du travail.
Bah oui, j'avais suivi quand même.
Bah oui, mais j'étais quand même dans un truc avec du wifi et tout, j'arrivais à suivre. Hein.
Donc vous avez tout suivi, sauf ce que Macron a raté.
Exactement.
Ah, c'est pas de bol, hein. C'est quand même pas de bol, ça je juge pas, hein. C'est pas de chance, des fois on capte pas tout. Je crois que Jean-Pierre Elkabbach, il a le même problème, hein. Il était en Irlande, c'est son côté irlandais, Elkabbach d'ailleurs on l'appelle. Donc peut-être Macron fait des erreurs, mais attendez, personne n'est parfait. Hein.
Non mais personne n'est parfait, mais il y a des gens qui arrivent à le montrer qu'ils sont imparfaits, qu'ils ne sont pas imparfaits mieux que d'autres.
J'ai rien pigé.
C'était du Raphaël Enthoven, tout craché.
Ah bah oui, non, mais si on commence à citer les grands philosophes, on va pas s'en sortir. Dans 2 minutes, on cite Finkielkraut, dans 5, Bob l'éponge. Nous, on n'a pas le niveau. Hein. La pensée complexe, c'est pour France Q, la radio préférée de Gérald Darmanin, avant qu'ils comprennent que Q, ça veut dire culture. Depuis, il a complètement décroché. Alors, puisqu'on est dans les hautes sphères, eh ben, il y avait une députée. Allons voir une députée de La République En Marche qui était là hier, Béatrice Piron, pour faire un petit bilan.
On a travaillé donc principalement l'été dernier et à l'automne sur la loi travail et sur cette réforme du droit du travail.
C'est passé par ordonnance donc.
Oui, mais on a travaillé quand même.
Il y a moins eu de débat quoi.
Oui, mais moi j'ai trouvé qu'il y en avait quand même suffisamment parfois.
Comme quoi on devrait tout faire par ordonnance, ça irait plus vite.
Oh, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais c'est vrai que des fois les débats durent longtemps.
Mais est-ce que c'est pas ça la démocratie? Est-ce que c'est pas le débat?
Non, la démocratie, c'est pas ça, débattre pour rien dire, non.
Ah, mais pour dire quelque chose.
Mais pour certains, ils parlent pour ne rien dire.
Voilà, et pour éviter ça, pas de débat, comme ça on gagne du temps par ordonnance. Est-ce que Louis XIV, il s'emmerdait avec Nuit debout Versailles? Non, il n'y avait pas de troubadour avec des djembés, ça n'existait pas, il s'emmerdait pas. Alors bon anniversaire à notre bon roi, à nous, et tant pis si la fête de Macron, c'est la défaite à la démocratie.
Merci Guillaume Meurice. Il est 17h41 sur France Inter, 19h41 à La Réunion, bien soulagé que vous soyez rentré à Paris, Guillaume. Et nous sommes en compagnie.
Je reviendrai.
Nous sommes en compagnie. Là, les requins tremblent. Michael Gregorio est avec nous jusqu'à 18h. Michael, le gaspillage vestimentaire passe encore inaperçu. Pourtant, sur les 5 millions de tonnes de fringues mises sur le marché, c'est près de 4 millions de tonnes qui sont jetées en Europe chaque année, fringues neuves ou usagées. Emmaüs, par exemple, récupère déjà 110 000 tonnes chaque année de vêtements. Mais les marques veulent produire en masse pour une croissance infinie. Un conseil, n'en jetez plus.
Tiens, je suis sûr qu'il va t'aller nickel. S'il te va, je te le donne.
Tu te crois dans le germinal ? C'est fini le temps où les riches donnaient leurs vieilles fringues aux pauvres.
Vite, hein. Ces conneries des fois.
Pourquoi, c'est pas ça ?
Non, c'est pas ça. Non. Un, je suis pas riche. Deux, t'es pas pauvre. Trois, c'est pas une vieille fringue. C'est un costard Agnès B à 400 euros que j'ai mis deux fois.
Il se paye des costards à 200 euros la soirée, il est pas riche. Pour lui, riche, ça commence au jet privé.
Ah bah, ouais, c'est vrai qu'il me va. Hein.
Bah, je comprends pourquoi tu veux me le refiler. Hein. S'il me va bien, c'est qu'il te va mal.
Bernard Campan et Marc Lavoine dans Le cœur des hommes de Marc Esposito. Michael Gregorio, est-ce que vous avez déjà eu une prise de conscience à ce niveau que le lien entre cette impression qu'on a d'accéder au bonheur, au plaisir immédiat en achetant des fringues et la dégradation de l'environnement parce que OGM, parce que exploitation des ouvriers du textile, etc.
Bah c'est, effectivement, ce qui est choquant, c'est parfois le prix des vêtements. On se demande comment ils sont fabriqués quoi, dans certaines enseignes. Voilà, mais c'est drôle qu'on en parle, parce que justement j'ai fait un tri hier, voilà, donc je vais donner dans les bennes, et en fait on m'a fait passer un article parce qu'on m'a dit que ce serait le sujet aujourd'hui. J'ai lu et en fait les gens ont trop de vêtements, c'est-à-dire que finalement les gens font comme moi, trient et ils se retrouvent avec trop de vêtements.
Vous triez régulièrement?
Oui, assez régulièrement, deux fois par an pour faire de la place quoi. Mm-hmm.
Et là donc vous allez dans les bennes, c'est-à-dire pour la récupération quoi, dans les assos ou pour en faire des fibres ou,
Je crois que dans les bennes ça part et aux assos et et en recyclage, mais d'abord voilà, je donne à des copains qui ont des enfants, parce que je suis pas très grand, ça va à personne. Donc voilà, si vous avez... Non, c'est vrai.
Vous avez un petit small, pouvez acheter deux fois plus de vêtements qu'un mec qui
a un large. Non, mais c'est vrai que là, je donne d'abord à des personnes, et puis après à des proches, et puis après, sinon, ça va.
Et donc, ça veut dire que vous achetez pas mal de vêtements, même si vous faites pas d'exagération.
Ouais, mais si, en fait, ouais. Ouais, je me rends compte qu'après lecture, effectivement, je peux.
De cet article culpabilisant de Slate.
Voilà, tout à fait. Mais en même temps, c'est bien de nous faire prendre conscience de ça, parce que évidemment, on a tendance à avoir conscience du gaspillage alimentaire, mais vestimentaire, on n'en entend jamais parler.
C'est vrai que les conditions de travail sont assez dingues. Et c'est vrai que quand on va dans certains...
Je lutte
oui,
tous les jours.
Oui, on voit bien ça depuis quelques années. Ça, on avait pas...
Bah oui, mais je suis un résistant, vous ne vous rendez pas compte.
C'est une chemise par an, c'est la 88.
La question, c'est de savoir, au bout de combien de temps qu'on a suffisamment porté le vêtement, on peut estimer que c'est bon, on n'a pas...
Les trous, c'est...
Souvent, il s'agit de vêtements qu'on a acheté de façon impulsive ou pendant les soldes, qu'on a à peine porté.
Il donne un chiffre, il dit c'est 6 ou 7 fois, et bim, le vêtement part à la poubelle. Mais alors, à combien
juste qu'il soit usé, c'est un vêtement.
En fait, je crois que c'est pas qu'il soit usé, il y a des marques comme, je crois que c'est Bonobo ou quoi, et c'est une manière de faire des vêtements éthiques. Et je crois qu'on peut. Alors, moi, je suis pas donneuse de leçons, parce que des fois, j'essaie d'acheter éthique et des fois, je craque sur des trucs. Voilà, il faudrait pas. Mm-hmm. Mais il faudrait qu'on s'intéresse plus aux marques qui fabriquent et éthique pour l'environnement et pour les gens. Ah, oui. Et ça se développe de plus en plus. Aussi, hein.
Pour les femmes. Reformation, je crois. Ma copine adore cette marque. C'est que des trucs recyclés. Voilà.
Ah bah très bien, voilà. Alors, c'est vrai que quand on va dans certains magasins de grandes chaînes, type Zara, H&M, etc., on fait un tour du monde des rayons. C'est-à-dire que cette veste, elle a été fabriquée au Bangladesh, celle-là au Pakistan, il y a tous les pays...
C'est rare que ce soit en Suisse.
Oui, voilà.
Il y a des pays quand même qui reviennent souvent.
Je crois que c'est moins cher quand il reste encore un peu de sang et de larmes de la personne.
Oui, exactement. Oui. Mais ce lien entre le gaspillage et les vêtements, vous l'aviez fait autour de cette table avant de lire l'article de Slate ou...
quand Primark est arrivé en Belgique, c'était des chiffres hallucinants, comme vous disiez. Ouais. À 2 euros, vous pouviez vous habiller.
Ouais, ouais. C'est des montagnes de fringues dans les magasins, déjà. Ouais.
Oui, mais même la célèbre enseigne à deux initiales, maintenant, depuis quelques années, à la caisse, ils te proposent de reprendre tes jeans et t'expliquent que c'est hyper sympa de leur part, que c'est pour l'environnement.
Mais la solution, c'est de moins consommer.
Je crois qu'ils font aussi une ligne chez H&M plus conscientious, comme ça.
Michael Grégorio, vous êtes un peu dans ce qu'on appelle la décroissance. En règle générale, je sais que vous mangez beaucoup moins de viande.
Très peu, c'est vrai. Mais non, c'est juste c'est pas forcément... j'ai l'impression que... Enfin, j'ai envie d'avoir une vie avec plus de bon sens, entre guillemets. Et c'est vrai pour les vêtements, c'est vrai pour la manière de produire la nourriture, les légumes. Ça me parle. Et en même temps, je me sens tout petit et à mon niveau, j'essaye de faire des choix. Après, c'est facile parce que je gagne bien ma vie. Donc, forcément, choisir des vêtements qui sont fabriqués, où tout le monde est, entre guillemets, je l'espère, je crois, bien payé. Pareil pour la nourriture, mais bon, moi je suis ma petite échelle, et puis surtout entre guillemets, j'ai la chance de bien gagner ma vie, donc j'ai les moyens, mais il y a des gens qui vont acheter leurs vêtements dans des grandes enseignes un t-shirt de 5 euros, 10 euros, faut se poser aussi les bonnes questions, quoi.
Et cet article de Slate qui s'intitule Le gaspillage de fringues ne choque personne et c'est un problème, signé Bérangère Viennot, nous explique que les associations croulent aussi
sous les vêtements,
et que c'est facile de se donner bonne conscience en les donnant aux assos.
Arrêtez d'envoyer des strings aux assos aussi. Merci pour elle.
Tiens, comme vous avez le crachoir, c'est la chronique à Juju, parce que c'est elle qui a le plus lu.
Ça a bossé la transition.
Oui, elle est démonte. Alors, la curiosité, paraît-il, est un vilain défaut. Alors, pas celle de curiosité qui te conduit à t'intéresser à l'autre, bien sûr, à l'inconnu. Non, la curiosité, c'est-à-dire l'indiscrétion. C'est-à-dire cette tentation de s'intéresser à la vie tout à fait privée des gens, avec une nuance, je mets quand même un vademécum pour les Kardashian West, vu qu'ils en font déjà le commerce et que c'est quand même bien rigolo. Alors, je récapitule. S'intéresser à la pyrogravure ou à la GRS, oui. S'intéresser à la culotte des gens et à ce qu'ils en font, non. Même s'ils sont connus, c'est mal. Bon, moi j'ai foiré, encore. Oui, parce que la raison qui m'a conduite à ce livre-là, Croquis d'une vie de bohème, c'est que l'auteur, Leslie Blanche, était la première femme de Romain Gary. À chacun son Kardashian, moi Romain Gary, c'est mon Kardashian.
Ouais, moi aussi, j'adore.
Voilà. Donc, ils ont été mariés de 1944, alors Romain, résistant, aviateur, héros, fils à sa mère, à 1962, Romain, diplomate, moustache romanesque, et qui a tenu sa promesse qu'il a faite à sa mère, même si l'aube, elle, n'a pas tenu la sienne. Sauf que Leslie, bien sûr, est anglaise et pas de Californie, alors elle est complètement anticonformiste et tout à fait attachée aux traditions en même temps, oui, c'est possible, et quoique rédigeant bien plus tard, c'est-à-dire bien après la mort de Romain Gary, Leslie, elle écrit pudiquement. Alors certes, elle se moque de son égocentrisme forcené, son goût perpétuel pour le drama. Régulièrement, elle lui disait « C'est bon Romain, on peut baisser le rideau maintenant ?» Ses angoisses profondes, malade ainsi quelques jours avant leur mariage en 44, il lui dit qu'il ne pourra sans doute pas être là. Et elle lui répond calmement « Oh mes chéris, mais ça sera bien moins amusant sans toi ». Et enfin, la froide indifférence de Romain Gary... couplé à un profond idéalisme. Sauf que ce ne sont que 100 pages sur 500 et qu'elles arrivent à un tiers du récit de la vie de cette femme. Et à ce moment-là, on est pris et on le reste après la mort de Gary. D'ailleurs, les derniers mots de Gary au téléphone, la dernière fois qu'il parlera avec sa première femme, Leslie, donc, ça sera « c'est con, Leslie, mais tout est con ». Ça m'a fait une peine inouïe. Pourquoi ? Parce que Leslie, oui, maintenant on est intime, la vieille dame et moi, elle écrit et elle raconte et elle se souvient rudement bien. C'est que c'était une écrivaine qui était publiée avant, pendant et après Romain Gary. La voyageuse, l'aventurière, l'amoureuse de l'Afghanistan et de l'Orient en général, elle se prépare à le devenir depuis toute petite, enfant, en Angleterre, quand sévit, dans le salon paisible de ses parents, un homme mystérieux, qu'elle n'appelle jamais autrement que le voyageur, et qui est un russe. Et qui plus tard, pas très tard, elle a 17 ans, et est super consentante, l'a fait devenir femme, comme on dit. Grâce à lui, elle n'aura de cesse de découvrir l'URSS et le reste de l'Est, souvent seule, toujours archi-documentée et chargée comme une reine d'Orient qu'elle n'a jamais été. Parce que de la même manière qu'être l'épouse d'un être plus connu et capé qu'elle ne fut qu'un épisode dans sa longue vie, 103 ans, Leslie quand même, et un certain nombre de mariages, Leslie ne fut pas une petite fille gâtée. Alors certes, ses parents étaient de petits rentiers, c'est ce qu'elle raconte dans le livre, mais cela prit fin avec l'emprunt russe, hein, comme pour beaucoup d'autres. Et ensuite, la petite voyeuse, comme elle se décrit elle-même, trouva les moyens de subvenir à la survie de ses parents. Pas très douée pour le nouveau monde qui se profile dans les années 30. Pas très loin tout court douée, ses parents d'ailleurs. Elle raconte ainsi que quand elle était petite, à 5 ans, elle a essayé de noyer une petite fille pour ses premières vacances à la mer. Que sa mère, percluse de honte, s'indigne, la rapporte au père en lui disant « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cet enfant ?» Et le père, hyper calme, répond à la mère « Écoute chérie, il m'arrive moi-même d'avoir des pulsions meurtrières. Cet enfant est comme moi, elle n'aime pas les êtres humains. » Bref, un concentré d'Angleterre. Lorsqu'elle a 16 ans, une gitane prend la main de Leslie et lit un mantra au creux de sa main. Le mantra, c'était « Aller loin, virgule, aimer tant ». Leslie Blanche a tant aimé aller loin, elle a aimé tant tout court. La gitane n'avait négligé qu'un détail qui n'en est pas un, une fois qu'on a lu ce livre. Aller loin, aimer tant, oui, et écrire. Et drôlement bien écrire. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, rappelez-nous.
Alors, c'est aux éditions de la Table Ronde, c'est un gros livre. C'est de Leslie Blanche et ça s'appelle Croquis d'une vie de bohème.
Merci Juliette. Voici ce troisième sujet avec Michael Gregorio. L'ambassade de France aux États-Unis passe à l'attaque. Elle veut exporter des spectacles français sur Broadway. Ils vont être surpris les Américains quand ils vont découvrir Boing Boing avec Bernard Menez et Stéphane Plaza. En attendant, bon, il y a Aran Mouchkine aussi, je vous rassure. En attendant, voici un spectacle français qui tourne déjà pas mal aux États-Unis.
On nous dit que le
Michel Faux.
Qui glisse est un salaud.
Je suis fan.
Que de nos chagrins il se fait d'un manteau. On m'a dit que nos vies.
On l'a reconnu. Oui, donc c'était effectivement Michel Faux à la cérémonie des Molières dans une reprise de Quelqu'un m'a dit de Carla Bruni. Oui, ouais. Vous aimez cette interprétation?
Ah bah, oui, et puis toutes ces interprétations. Michel Faux est un artiste vraiment extraordinaire. Je crois qu'en ce moment, justement, il est au théâtre avec Névrotique Hôtel de Christian Siméon, si vous avez l'occasion de le voir sur scène.
Ah, ça pourrait s'exporter, par exemple, aux États-Unis?
Névrotique Hôtel, ouais. Oui, je pense. Voilà. Ah oui, complètement. Complètement.
Mais quelqu'un comme vous êtes dans ce, comment dire, le showbiz à l'américaine, votre spectacle, il est...
Ah, il y a plein de voix qui sont, ouais, transposables.
Vous pourriez faire un mois à Las Vegas?
C'est très compliqué en fait d'aller jouer aux États-Unis pour plein de raisons. Enfin, et d'aller jouer d'ailleurs loin. Dès qu'il y a de l'avion, c'est assez compliqué parce que j'ai des musiciens sur scène, donc c'est tout de suite des coups, etc. Et aux États-Unis, si vous n'avez pas une équipe américaine, c'est assez compliqué d'aller travailler là-bas. Il faut justifier que chaque poste, voilà, ne pourrait pas être remplacé par un américain. Donc, c'est assez compliqué.
Est-ce qu'il existe votre alter ego aux États-Unis, quelqu'un qui interprète
celui à qui vous avez tout piqué?
qui ne fait que des chansons qui a tous vos particularités, quoi, pas de politique, que de la chanson, pas de parler.
Il doit y avoir
André Philippe Gagnon
qui est québécois. Mais aux États-Unis, j'avais eu la curiosité d'aller voir il y a quelques temps, et en fait ils sont surtout spécialisés, c'est plutôt des sosies, c'est-à-dire que il y en a un qui va être spécialisé dans Frank Sinatra, dans Elvis, dans Jimi Hendrix. J'avais vu un mec qui faisait Jimi
Hendrix aussi, oui. Extra.
Mais j'ai pas trouvé un spectacle un peu protéiforme.
Alors, il est unique,
j'adorais aller voir.
Et c'est nous qui l'avons, c'est Michael Gregorio.
Non, ça doit exister, mais c'est vrai que j'ai pas poussé non plus les recherches super longues.
C'est un article à lire sur lepoint.fr, hein, où donc le ministère des Affaires étrangères finance la traduction d'œuvres pour qu'elles soient jouées à Broadway, alors qu'on a déjà heureusement quelques auteurs qui sont en lien avec les États-Unis.
Boeing, là-bas, ce serait Airbus Airbus, du coup.
Ce serait plus exotique. Michael Gregorio, Alex Vizorek, un petit sketch à vous proposer.
Oui, en fin d'émission, vous connaissez peut-être l'émission, on propose un sketch à l'invité, il découvre le texte. On sait que vous n'aimez pas imiter des voix parlées, c'est pas grave, on vous a mis quelques voix chantées que vous maîtrisez, je pense. Guillaume Meurice veut faire sa Christine Gonzalez, interviewer l'au-delà. Eh bien, rendons-nous-y.
Alors, je vais prendre contact avec l'au-delà. Est-ce que vous m'entendez? Qui est là?
C'est à vous, Mickaël Grégory.
Ah, pardon, bah, il faut que je lise. Alors, Je m'en irai dormir dans le paradis blanc.
Ah, Michel Berger. Alors, c'est l'occasion de lui demander ce qu'il pense de la crise des migrants.
Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux.
J'imagine que c'est un hommage. En tout cas, Marine Le Pen va être surprise. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle vous inspire, Marine?
Elle fout toute sa vie en l'air. Et toute sa vie, c'est pas grand-chose.
Dites donc, vous analysez bien l'actu. Il y a d'autres gens autour de vous?
Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas péché que de pécher en silence.
Ah, Molière, là.
Oui, c'est un échange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens.
Mais il a un accent belge, Molière?
Oui, comme tous les gens de talent.
D'accord, ok. Alors, passez-moi Brel à ce moment-là. Il est où, Brel?
Dans le port d'Amsterdam.
Ah, évidemment. Qu'est-ce que vous pensez du gouvernement Macron?
Pour vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche.
Ah, et vous qui est?
Au suivant.
Ah. Et Bayrou?
Au suivant.
Et Sarkozy?
Au suivant.
Ouais. Et Brigitte Macron?
Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa faute.
Bon, on va passer peut-être à quelqu'un d'autre, une femme peut-être.
On ne naît pas femme, on le devient.
Ah, Simone, excusez-moi. Qu'est-ce que vous pensez de La République en Marche? Tiens, Simone,
ils se contentent de tuer le temps en attendant que le temps les tue.
C'est bien dit, d'accord. Sinon, vous croyez en Dieu?
Il y a des jours où Dieu est si loin qu'il semble absent.
Je confirme. Mais si elle, là-haut, elle le voit pas?
Va te faire cuire le cul.
C'est une vraie phrase de Simone de Beauvoir, ça?
Ben oui, elle m'a dit ça un jour quand je lui ai demandé de faire la vaisselle.
Ah, c'est Jean-Paul Sartre, d'accord. Oui. Sinon, il y a encore quelqu'un, là? C'est le bordel.
Ah putain, c'est moi.
Oui, c'est vous qui...
On m'a trop donné bien avant la vie. J'ai oublié les rêves et les merci.
Je crois que je reconnais, c'est Johnny.
Pardon pour le micro, mais bon...
Vous avez tué un ingénieur du son. Comment ça va, Johnny?
J'ai oublié de vivre. Là,
c'est trop tard, là, si vous avez oublié de vivre. D'ailleurs, qu'est-ce que vous aimeriez dire à Laura?
Merde, attends, ça fait quoi?
Je te promets la clé
je la connais pas celle-là.
La clé des secrets de son âme, ouais, c'est ça. Comme quoi, elle aura pas hérité de rien, hein. C'est chouette une clé. Un dernier truc à dire?
What did
évidemment, un petit coup de pub, bien sûr.
Mickaël Grégorio, merci beaucoup, merci infiniment, c'était pas évident. Et je rappelle que vous interprétez trois voix dans Léo et les extraterrestres. Vous portez notamment ce film d'animation en France, en francophonie, qui sort mercredi en salle. Film des frères Lohenstein et de Sean McCormack. Merci beaucoup, Mickaël Grégorio. Et mercredi, alors que le film sort en salle, vous serez aussi sur M6 lors d'une soirée qui vous est consacrée avec votre spectacle J'ai 10 ans et puis un documentaire sur votre vie. Merci beaucoup, Mickaël.
Je vous en prie, plaisir. Merci pour votre accueil.
Merci à toute l'équipe et à demain.